journal. Bonjour Florence Paracuelos.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, Donald Trump muré dans ses certitudes. Il lui faut son mur à la frontière mexicaine, quitte à prolonger le gel du budget et le chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Nous serons à Washington dans un instant. À Tokyo également, où Carlos Ghosn reste en prison, sa demande de remise en liberté vient d'être rejetée. En France, un débat, mais pas de pilote, après le départ de Chantal Jouanneau à une semaine de son lancement. Des membres de l'ultra-droite au tribunal pour des violences à Paris pendant une manifestation des Gilets jaunes. Et les racines chrétiennes de l'Europe, argument massu des populistes. C'est le postulat de votre invité, Nicolas.
Oui, il s'agit d'Olivier Roy. Il publie « L'Europe est-elle chrétienne ?» Point d'interrogation au seuil. Il est dans le grand entretien de la matinale à partir de 8h20. Amis auditeurs, dès maintenant, le 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter.
À la une également, la maison de l'ancien espion empoisonné Sergueï Skripal, démonté par l'armée en Angleterre. La chasse aux oies sauvages peut être prolongée d'un mois en France. Et un pays où le football est roi, mais où les stades sont vides, l'Égypte vient pourtant d'être désignée pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations.
France Inter.
Imaginez des centaines de milliers de fonctionnaires privés de salaire depuis presque 3 semaines et pas une seule manifestation inimaginable en France. Mais les États-Unis ne sont pas la France et là-bas cette situation porte un nom, le shutdown ou la fermeture des administrations. Et Donald Trump a tout son temps, manifestement, il l'a redit solennellement hier soir, il veut son mur à la frontière mexicaine, envers et contre les démocrates qui refusent de financer plus de 5 milliards de dollars pour l'édifier. Budget bloqué donc, et qu'importe les 800 000 fonctionnaires pénalisés à Washington. Grégory Phillips.
C'est la première fois que Donald Trump s'adresse ainsi à la nation depuis le bureau ovale. Le ton est grave, le président décrit une crise humanitaire et sécuritaire à la frontière sud. Et comme il en a l'habitude dans ses meetings, il fait peur en citant plusieurs affaires dans lesquelles ont été impliqués des criminels entrés illégalement sur le territoire américain. Puis Trump répète qu'il faut ce mur à la frontière.
La seule solution, c'est que les démocrates votent le budget pour cette barrière afin que nos frontières soient protégés et alors on pourra rouvrir les administrations. On peut sortir de cette situation en une seule réunion de 45 minutes.
La réponse des démocrates Nancy Pelosi et Chuck Schumer intervient 3 minutes plus tard, également diffusée sur toutes les télévisions. Et le patron de la minorité démocrate au Sénat dit ceci.
Le symbole de l'Amérique doit rester la statue de la liberté, pas un mur de 9 mètres de haut. Monsieur le Président, rouvrez les administrations et alors on travaillera ensemble pour résoudre nos différences de point de vue sur le problème de la sécurité des frontières. Mais d'abord, mettez fin à ce shutdown, maintenant.
En attendant, le bras de fer continue et les administrations restent en partie paralysées. Ni Trump, ni les démocrates ne veulent céder pour l'instant. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et la seule concession du président américain, c'est de proposer une clôture en acier plutôt qu'en béton, ce qui ne change rien pour les démocrates.
8h03 en France, Florence, y a-t-il un pilote dans le débat ?
Non, depuis hier soir et la sortie de Chantal Jouanneau, les conditions de sérénité nécessaires ne sont pas assurées pour le mener, dit l'ancienne ministre, qui juge la polémique sur son salaire légitime. 14 700 euros bruts par mois pour diriger la Commission nationale du débat public, dont elle ne démissionne pas, pour le coup. À charge pour le gouvernement de trouver une nouvelle organisation pour ce débat, cette séquence pensée comme une réponse aux Gilets jaunes. Il y aura un séminaire des ministres dans la journée. Bonjour Yael Gauze.
Bonjour Florence.
Ce grand débat national doit théoriquement commencer dans moins d'une semaine. Et le constat, c'est qu'on ne sait toujours pas à quoi il va ressembler.
Et ce matin, Florence, on en est encore à débattre sur le débat. Forme, fond, objectif, tout reste à définir. Le pilotage d'abord. Exit Jouanneau donc. L'Élysée ne lui a jamais vraiment fait confiance. Combien de consultations organisées dans l'indifférence générale? Une reprise en main politique, donc, avec la même promesse de neutralité, mais comment faire avec une commission du débat qui se retire du jeu? Qui seront les nouveaux garants? Peut-être un comité des sages? Réponse à la mi-journée. Le contenu ensuite. 4 chapitres. Écologie, citoyenneté, fiscalité, réforme de l'État. Il faut parler de tout, disait Jouanneau. En réalité, l'exécutif veut cadrer les choses, ce qui met les ministres dans une situation bancale. D'où le grand n'importe quoi d'hier sur la taxe d'habitation, dont on pourra finalement débattre, mais pas de l'ISF, pas des droits de succession, parce qu'il y aurait des bons et des mauvais sujets, même garde-fous sur les questions de société, peine de mort, IVG, mariage pour tous, l'Élysée met des limites pour éviter le grand défouloir. Et puisqu'on parle des ministres, quelle sera leur place dans les réunions publiques? Même entre eux, il y a débat, voire incompatibilité, entre un Benjamin Griveaux pour qui le jaune est devenu la couleur des factieux, et un Mounir Majoubi qui part vendredi à Fréjus passer 24 heures avec une gilet jaune en mode « vie ma vie ». Enfin, non tranché également, la question de l'après-débat, du débouché politique, référendum ou pas, un grand débat conçu au départ pour vider les ronds-points. Un mois après, c'est le gouvernement qui tourne en rond.
Yael Gauss, chef du service politique de France Inter. 6 membres de l'ultra-droite jugés à Paris aujourd'hui, 6 jeunes hommes à l'affiche de l'acte 2 des manifestations de gilets jaunes à Paris le samedi du saccage de l'Arc de Triomphe. Ils sont poursuivis, Sarah Guibaudot, pour association de malfaiteurs.
Le 1er décembre, place de l'Étoile, quelques dizaines de militants se rassemblent derrière une banderole. C'est la photo de famille de l'ultra-droite, résume une source policière. Certains partent ensuite monter des barricades et affronter les forces de l'ordre. 6 jours plus tard, ces 6 jeunes hommes sont interpellés. Ils ont une vingtaine d'années, 4 parisiens, un lyonnais, un alsacien. La plupart étudiants, de haut potentiel, a même dit le procureur lors de la première audience de comparution immédiate. Mais ils sont connus pour leur appartenance à la mouvance ultranationaliste, plus précisément au Bastion Social et aux Zouaves de Paris, deux mouvements qui ont pris la relève du GUD, l'ancien groupe Action Défense, avec parfois les mêmes méthodes. 2 des prévenus ont déjà été jugés pour des attroupements violents, comme l'attaque du lycée autogéré de Paris au printemps dernier. Mais un seul a déjà été définitivement condamné pour des faits similaires et a donc été placé en détention provisoire. Sur Facebook, ses soutiens font le parallèle avec l'écrivain Robert Brasillac, antisémite et collaborateur, qui fut aussi emprisonné à Fresnes avant d'être fusillé en 1945.
Sarah Guibaudot à Toulouse, c'est un gendarme qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il avait blessé une opposante au barrage de Sivens avec une grenade de désencerclement jetée à l'intérieur de sa caravane. C'était avant la mort de Rémi Fraisse.
Il est 8h07, les soldes d'hiver vont-elles rattraper la saison catastrophique des commerçants?
Après presque 2 mois de manifestation des gilets jaunes, 58 000 salariés sont au chômage partiel. Le gouvernement va prolonger ses mesures d'aide jusqu'à 20 mois pour les entreprises les plus touchées, ce qui n'est pas du tout le cas. Des poids lourds de la vente en ligne, ce sont eux les grands gagnants de l'hiver. Leur dépôt du Val d'Oise tourne à plein régime. Reportage signé Philippe Lefebvre.
Là, vous avez la quantité, le nombre de pièces, 10.
Pour Justine, pas question d'aller faire les soldes car elle passera une bonne partie de sa journée à emballer les commandes passées sur le site de ce poids lourd du commerce sur Internet. Dans ce hangar anonyme, la période est un peu plus stratégique car l'entreprise réalisera aujourd'hui pas moins de 2% de son chiffre d'affaires de l'année. L'ensemble de la période des soldes d'hiver représentant au total 10% de ce même chiffre d'affaires. Et pour y parvenir, Stéphane Morin, le directeur logistique de Brandalet, a dû recruter.
Avant les soldes, nous sommes à 80 personnes et on passe à 140 personnes jusqu'à la fin des soldes. Avant, on double quasiment l'effectif pour des volumes de commandes qui sont quasiment triplés. Alors, le premier jour des soldes, on va attendre à minima 25 000 commandes qui auront chacun à peu près 3 pièces par commande, donc à peu près 80 000 pièces à sortir dès le premier jour. Et on a eu un hiver assez doux, donc là on a énormément de pièces à manches longues, de la laine, des bottes fourrées, des doudounes. Dès le premier jour, ce sera moins 70%. Voilà. Et on pourra ensuite, avec les deuxièmes, troisièmes démarques, atteindre des taux de remise à 90%.
Et ici, durant les soldes, on remarque parfois des commandes étranges de plusieurs dizaines d'exemplaires d'un même vêtement. Des commandes de petits commerçants qui, selon l'entreprise, se fourniraient aussi discrètement sur Internet.
Un geste pour ceux qui vont travailler en voiture et qui passent tous les jours au péage. Voilà ce qu'envisagent les sociétés d'autoroutes en guise de contrepartie à l'augmentation de leurs tarifs au 1er février, 1,8% en moyenne. Le gouvernement attend leur proposition la semaine prochaine. Son innocence clamée hier n'y aura rien changé. Carlos Ghosn reste en prison. Le tribunal de Tokyo rejette ce matin sa demande de remise en liberté après presque 2 mois en détention. Avec nous Isabelle Raymond, envoyée spéciale de France Inter au Japon. Isabelle, on peut pas franchement parler d'une surprise.
Non, l'information nous a été confirmée à l'instant par la deuxième agence de presse Kyodo que nous avons pu joindre au téléphone. La demande de libération sous caution de Carlos Ghosn déposée hier soir par ses avocats a été rejetée il y a un peu plus d'une heure par le tribunal de district de Tokyo. Vous l'avez dit, le résultat n'est pas considéré comme une surprise ici, vu que l'ancien patron de Renault non seulement se refuse à tout aveu, mais en plus clame haut et fort son innocence avec cette audience hier qui s'est tenue à la demande de ses avocats au cours de la laquelle Carlos Ghosn a pu donner sa version des faits. Pas question donc pour le tribunal de perdre la face après cette séquence peu appréciée par le procureur. Ce qui frappe plutôt ici, c'est la rapidité avec laquelle la justice a rejeté cette demande de libération sous caution, moins de 24 heures donc après son dépôt. Ici, de l'avis des avocats comme de la presse, il est désormais quasiment certain que Carlos Ghosn restera derrière les barreaux jusqu'à la tenue de son procès qui n'est pas prévu, Florence, avant 6 mois au moins.
Isabelle Raymond en direct de Tokyo. Direction Salisbury maintenant, ville britannique connue pour son attaque au Novichok. C'est là qu'habitait Sergueï Skripal, ancien espion russe empoisonné avec sa fille. Et il reste peut-être des traces du puissant poison dans sa maison. Du coup, l'armée, Antoine Gignot, est en train de la démonter méthodiquement.
La maison en briques rouges est en train de disparaître sous les échafaudages. C'est la première étape de la décontamination. Il faut créer une cloche, un couvercle étanche pour empêcher toute émanation de gaz toxique à l'extérieur. Le risque est très faible, mais il existe, explique la directrice de la santé publique du conseil municipal de Salisbury. Le Novichok pulvérisé sur la poignée de la porte et retrouvé dans un flacon de parfum dans une poubelle a déjà causé la mort d'une femme de 44 ans tombée malade des mois après la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal. C'est donc une rénovation en profondeur qui va avoir lieu. Pendant 4 mois, les militaires vont enlever le toit du bâtiment principal, puis celui du garage, avant de reconstruire une charpente. Pour ne prendre aucun risque, le chat de l'ancien espion a été euthanasié par l'armée au printemps dernier. Les deux cochons d'Inde, eux, ne risquent plus de contaminer grand monde. Ils ont été retrouvés morts dans la maison. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Ils sont toujours bloqués en mer au large de Malte. 49 migrants sur 2 bateaux humanitaires que personne ne veut laisser débarquer. Aujourd'hui, 7 ONG demandent à la France de les mettre à l'abri. La semaine dernière, Paris s'est dit prête à en accueillir une partie dans le cadre de l'effort européen. Mais il ne s'est rien passé depuis.
Il est 8h12, sale temps pour les oies sauvages.
Par-dessus les toits, soudain, les associations de défense de l'environnement ont vu passer un projet de prolongation de la période de chasse. 1 mois de plus jusqu'à fin février. Anne-Laure Barral, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Une nouvelle fois, le gouvernement soigne une demande des chasseurs qui souhaitent pouvoir tirer sur les oies migratrices au-delà du 31 janvier pour aller jusqu'au 28 février. Mais pour le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, c'est une aberration.
Je suis effondré de voir que le président Macron fait encore des cadeaux aux chasseurs au risque d'y laisser des plumes du reste. Selon les directives européennes, il est interdit de chasser les oiseaux pendant la période de reproduction, à partir du 31 janvier.
Dans son projet, le gouvernement rappelle que l'espèce est en expansion et qu'il est possible d'en tuer 5000 de plus sans mettre en danger le million d'individus existants. Cela aiderait même nos voisins néerlandais qui subissent de gros dégâts dans leurs champs à cause de ces volatiles. Un argument contesté par Frédéric Giguet, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle.
Les oies cendrées qui font des dégâts au milieu agricole aux Pays-Bas sont des oies sédentarisées. Ils ne bougent plus des Pays-Bas, donc c'est pas du tout celles qui migrent par la France.
La prolongation de la chasse est pour l'instant soumise à une consultation du public sur le site du ministère de l'Environnement jusqu'au 25 janvier. Mais si le gouvernement mettait son projet à exécution, la Ligue de protection des oiseaux a déjà prévenu qu'elle attaquerait devant le Conseil d'État.
Anne-Laure Barral, une nouvelle ligne de métro très loin du Grand Paris. Un métro sous la montagne, entre la France et Andorre. Voilà qui est très sérieusement envisagé par la Chambre de commerce de Perpignan et la Principauté. 7 km de trajet entre la commune de Porta et le Pas-de-la-Case. La route est droite, mais la pente est raide, Sébastien Berriot.
Il y a quelques jours, l'ambassade de France à Andorre-la-Vieille a téléphoné au maire de la petite commune de Porta, 124 habitants, pour l'informer de ce projet de métro souterrain. Marius Hugon a tout de suite été convaincu.
Pour moi, c'est une aubaine. Un poste de douane qui va être créé à cet endroit-là, obligatoirement. Donne des emplois pour les écoles. Il faut saisir l'occasion, parce que je crois qu'elle ne se représentera pas 2 ou 3 fois. En tant que Porta frontalier avec le pas de la case, j'arrive là-haut, tranquillement, sans prendre nos voitures, tout à fait écologiquement, c'est un projet exceptionnel.
Les 7 km seront parcourus en 11 minutes, avec un dénivelé impressionnant de 580 mètres. Le projet n'en est qu'à ses débuts, mais côté Andorrans, on y croit très fort. Raymond Ginesta, vice-président de la Chambre de commerce de la Principauté.
Si on n'y croyait pas, on n'y travaillerait pas. C'est techniquement possible. Ce n'est pas une œuvre pharaonique, hein, mais ensuite, il est certain que derrière ça, il faut une volonté politique des deux ou trois parties intéressées, c'est-à-dire la France, l'Espagne et l'Andorre.
Les discussions vont se poursuivre dans les prochains mois. La position du gouvernement français n'est pas encore connue. Elle sera déterminante. En effet, le tunnel est prévu en quasi-totalité sur le territoire français.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon. Et maintenant, des you-you pour le foot en Égypte hier avec la consécration de l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, qui remporte son deuxième ballon d'or africain consécutif et l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette année, premier grand événement sportif international organisé depuis la révolution de 2011. Défi sécuritaire dans un pays qui vibre pour le football sans pouvoir aller au stade depuis des années. Au Caire, François Umferkataji a chaussé les crampons pour France Inter.
Sur un terrain de football de la capitale, Adam Ahmed, jeune joueur professionnel de 14 ans du club de Zamalek, s'entraîne tard alors que tous ses coéquipiers sont déjà partis. Pour lui, le choix de l'Égypte pour l'organisation de la CAN 2019 est un bol d'air pour le football égyptien où les matchs du championnat se jouent tous à huis clos.
Je suis vraiment heureux en entendant cette nouvelle parce que vous savez, nous n'avons pas de supporters ici dans le championnat égyptien. Alors ça serait incroyable.
Pas de supporters dans les stades depuis 6 ans. Une bagarre ultra-violente avait éclaté dans un stade de Port Saïd en février 2012. 72 personnes avaient perdu la vie. Pourtant, en Égypte, le football est partout. Tous les cafés diffusent les matchs. Une nation assoiffée de football, à tel point que ceux qui ne suivent pas l'actualité du ballon rond ont développé leur propre technique.
Oui, bien sûr, je dois faire semblant de connaître le football. Si quelqu'un me demande « Tu as vu le grand club d'Ali, ils se font défoncer en ce moment ?» Je réponds « Oui, mec, j'ai entendu, ils sont vraiment mauvais. » Avec Mohamed Salah, c'est plus facile. En plus, c'est un bon moyen de changer de conversation. Il suffit de dire « Vous avez vu les dernières performances de Salah ?» Et là, les gens commencent à parler entre eux.
L'attaquant de Liverpool, véritable icône en Égypte, a déjà promis de tout faire pour que son pays remporte la coupe à la maison. Le Caire, François Umferkataji, France Inter.
En France, où les stades sont pleins, Strasbourg s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue hier soir après avoir battu Lyon 2-1. Ce soir, le PSG, quintuple tenant du titre, reçoit Guingamp, tandis que Monaco accueille Rennes et Bordeaux, Le Havre. Tout ça ce soir sur les coups de 21h.
Merci Florence Paracuelos, la météo Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre, dès ce matin, il neige sur le flanc est.
Oui, et même en plaine, hein, des Ardennes, à la Lorraine, à l'Alsace, au Morvan, jusqu'en vallée du Rhône. Des chutes de neige plus fortes, en revanche, sur le Jura et le nord des Alpes et sur les versants nord du Massif central. Le temps, par contre, sera plus sec dans l'ouest et ensoleillé et venté en Méditerranée avec des averses orageuses en Corse. Et quelques petites gelées ce matin. Il fait moins 4 dans l'Indre, également dans le Gard, mais aussi vers Aurillac et en Lozère. On relève 4 à Lille, Strasbourg, Rennes ou Bordeaux et 6 à Paris.
Mais ça va pas changer dans l'après-midi.
Et non, toujours de la neige en pleine, des Ardennes à l'Auvergne-Rhône-Alpes avec de bonnes chutes de neige en montagne, des 300 mètres, on attend 10 à 20 cm, on conservera un temps sec dans l'ouest en raison de l'anticyclone qui est sur l'Atlantique, mais de la pluie arrivera quand même sur le sud-ouest et toujours du soleil en Méditerranée et toujours des averses orageuses sur l'île de Beauté. Le mercure en revanche ne va pratiquement pas monter par rapport au matin. À Paris, on n'aura pas plus de 5 à 6, à Biarritz où il fait actuellement 11 degrés, en journée vous n'aurez pas plus de 7, il fera 8 à Marseille et c'est vers la tour d'Auvergne où il fera le plus froid avec 0 degré.
Merci Marie-Pierre.